La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnin.
Bonjour.
Les États-Unis annoncent ce matin qu'ils vont frapper l'Iran, mais la stratégie de Donald Trump face à Téhéran reste quand même très imprécise.
Et oui, on est 36 heures après qu'un missile iranien a abattu un drone américain en plein vol au-dessus du détroit d'Ormuz, c'est ce que nous rappelle le New York Times. Et la Maison Blanche vient donc après des heures de réunion secret défense dans sa salle de crise que l'Amérique d'annoncer donc que l'Amérique va répondre à la provocation iranienne, qu'elle va bombarder des cibles militaires précisément identifiées sur le sol iranien. Voilà donc pour la réponse américaine, déterminée, intransigeante, rapide, mais tout de même graduée selon les éléments de langage repris par la chaîne conservatrice Fox News, mais le New York Times, lui, s'étonne du mou qu'il décèle dans la chaîne de commandement. Selon ses informations, Donald Trump a approuvé ses frappes sur l'Iran, ciblant donc des batteries de missiles aériens et des radars militaires. Tout le monde se tenait prêt à donner l'ordre de faire feu, les avions étaient dans les airs, les navires de guerre en position, mais finalement, l'ordre qui est venu, c'était celui d'annuler l'opération. Le président s'est finalement ravisé, affirme le New York Times, et l'ordre a été transmis aux avions et bien de rentrer à leur base. Opération avortée à la dernière minute, confirme le Washington Post, qui a lui aussi des sources bien placées parmi les officiels anonymes à la Maison Blanche. Alors c'est peu dire que ces informations sont très sensibles, très graves, tant elles posent la question de la capacité de Donald Trump à ne pas avoir la main qui tremble quand il est dans le sein des seins de son pouvoir présidentiel, la salle de crise, la Situation Room, depuis laquelle il commande toutes les forces armées américaines à travers le monde. Et justement, depuis hier soir, tous les médias des États-Unis tentaient de savoir ce qui se disait dans cette salle de crise, salle où le président était enfermé avec ses plus proches conseillers en matière de sécurité et de défense, son état-major, ses services secrets et ses diplomates les plus éminents. Pour CNN, la configuration était claire. Donald Trump était plutôt partisan de la retenue. On l'avait vu hier avec ses déclarations plutôt modérées qui semblaient refuser l'engrenage de l'escalade militaire. Et face à lui, dans le camp des va-t-en-guerre, il y avait John Bolton, son conseiller sécurité intérieure, partisan de la manière forte et du renversement coûte que coûte du régime iranien. Entre les deux, CNN décrit le rôle de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, un rôle de triangulateur, de médiateur, même si l'on sait qu'il est dans le fond plutôt favorable à des frappes contre l'Iran. Alors que s'est-il joué dans cette nuit dernière entre ces trois-là ? Donald Trump a-t-il cédé aux appels du faucon Bolton avant de reculer au moment d'appuyer sur le bouton rouge ? Qui a eu le dernier mot dans cette tempête sous un crâne orange? Il faut quand même dire avec le New York Times que ce contre-ordre de dernière minute peut également être dû à des problèmes d'ordre technique ou logistique. La Maison Blanche et le Pentagone se refusent pour le moment à tout commentaire ou explication, à tel point qu'on ne sait même pas si les frappes américaines sur l'Iran sont simplement suspendues, retardées ou tout bonnement annulées.
Beaucoup d'autres questions dans l'actualité internationale et notamment celle-ci. Camille, que s'est-il passé hier soir à Tbilissi, la capitale géorgienne, où 30 manifestants et 39 policiers ont été blessés?
Alors nous sommes là dans le Caucase, hein, en Géorgie, où des milliers de manifestants ont déferlé hier devant le Parlement national pour protester, d'après ce qu'en dit le site spécialisé sur le Caucase Eurasianet, contre la visite d'un parlementaire russe. Sergueï Gavrilov, député communiste à la Douma, devait prononcer à Tbilissi un discours depuis donc le perchoir de l'Assemblée de Géorgie pour inaugurer un rassemblement international de parlementaires orthodoxe. Alors à ce stade, comme le fait Eurasianet, il faut rappeler que la Géorgie est un pays voisin de la Russie, ancienne république soviétique, et qui a été en guerre avec Moscou pas plus tard qu'en 2008, quand des soldats russes ont pénétré sur les territoires des régions géorgiennes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie pour y soutenir l'avènement de républiques séparatistes pro-russes. Depuis, la Géorgie est toujours amputée d'une partie de son territoire, des forces russes sont toujours présentes dans les deux républiques autoproclamées, et les relations diplomatiques entre Tbilissi et Moscou sont officiellement suspendu. Alors forcément, nous dit le site russe dissident Medusa, la venue à Tbilissi de Sergueï Gavrilov, connu pour avoir soutenu l'autodétermination de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie en 2008, ne pouvait qu'être vue comme un chiffon rouge agité au nez de l'opposition géorgienne, qui accuse régulièrement la nouvelle présidente Salomé Zourabichvili de ne pas être assez ferme contre l'occupation russe. Hier soir, et c'est à nouveau Medusa qui décrit les événements, il y a donc eu manifestation massive, tentative d'intrusion dans le Parlement de Tbilissi, puis dispersion violente de la foule qui appelait à la démission du gouvernement géorgien. Les forces de l'ordre ont utilisé gaz lacrymogène, canon à eau et tirs de balles en caoutchouc. Bilan donc ce matin, près de 70 blessés en tout et une délégation russe menée par le député Gavrilov qui a dû battre en retraite et quitter le pays en urgence. Conséquence, eh bien ce matin, c'est la presse russe qui voit rouge à son tour. Affrontement sanglant, révolution en marche en Géorgie comme précédemment en Ukraine. Voilà pour les titres qui s'affichent en une de la Gazeta quand le journal en ligne Rosbalt va encore plus loin, n'hésitant pas à parler de pogrom anti-russe. On notera tout de même sur lenta.ru ces propos de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, décriée donc comme pro-russe par ses opposants, mais qui pour le coup ne mâche pas ses mots contre Moscou. La Russie, disait-elle dans la soirée d'hier sur Facebook, est notre ennemi et notre occupant. L'intrusion de sa délégation dans le Parlement national est vue comme une provocation, une violation de la dignité nationale. Salomé Zourabichvili accuse Moscou d'avoir mené à Tbilissi hier une opération de déstabilisation politique, de division des Géorgiens, le genre de manœuvre dont les Russes sont coutumiers, affirme enfin la présidente géorgienne.
Et puis enfin Camille, vous revenez sur une information donnée la semaine dernière et qui avait passionner nos auditeurs.
Oui, c'est un peu le service après-vente de la revue de presse internationale. Vous vous souvenez sans doute de cette archive sonore que je vous avais fait écouter, la phonothèque mexicaine qui affirmait avoir exhumé un enregistrement unique, la seule trace existante de la voix de Frida Kahlo. L'histoire était belle, mais une contre-enquête du Guardian publiée hier affirme que non, ce n'était pas la peintre mexicaine que l'on entendait sur cette bande dire son poème d'amour à Diego Rivera. Ce serait plutôt, selon des proches de Frida Kahlo, son amie, la comédienne Amparo Garrido, qui elle-même déclarait tout récemment à la radio mexicaine Formula qu'elle est presque absolument sûre de se souvenir qu'elle a enregistré ce poème en 1953 ou 1954. The Guardian s'interroge du coup sur ce scoop raté de la phonothèque mexicaine, soupçonné de surfer sur ce que le quotidien britannique appelle la fridolatrie, une Frida mania qui s'est emparée du Mexique ces dernières années et qui vire trop souvent à la grotesque exploitation commerciale. La voix de Frida Kahlo, elle, garde tout son mystère et c'est peut-être mieux comme ça.
En tout cas, ça parle à l'invité qui est aussi une auditrice, qui est à côté de Dominique de Fauréau. Et on va continuer d'ailleurs en parlant cette fois-ci de Gustave Courbet en votre compagnie, 7h43 sur France Culture.